I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle société et sexualité. Aujourd'hui, un épisode sur la difficulté de parler de sexualité, de son désir quand on est adolescente, jeune femme, sans être étiquetée, cochonne ou frigide. Si la sexualité féminine n'est plus un tabou aujourd'hui, pourquoi les mots sont encore perçus dans leur bouche comme trop vulgaires, trop médicaux, trop enfantins? Et en se gardant de toute généralisation, pourquoi les femmes ont aussi tant de mal à exprimer ce qui les fait jouir?
Et votre femme?
Comme toutes les femmes, elle n'a rien à dire.
C'est un nouveau pourquoi, mais pourquoi est-ce si important que dans le discours sexuel émergent de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de nouvelles orientations, de nouveaux débats pour sortir des injonctions? Par exemple, l'injonction sur les poils, la forme des tétons ou la forme de la vulve.
C'est de la perversion, de la maladie mentale, n'en parlons plus.
On parle de cette parole sur la sexualité au féminin avec Daphné Leblon. Elle est réalisatrice avec Lisa Bilieu-Harmonet du film documentaire « Mon nom est Clitoris ». Dans ce documentaire, une douzaine de jeunes femmes qui parlent de leur désir, de leur corps, de ce qu'elles aiment et de ce qu'elles n'aiment pas, délivrées de la culpabilité, des contraintes, du jugement, délivrées aussi de normes sur des corps irréalistes. Première question à Daphné Leblon, quand on est adolescente, jeune femme, comment parler de sexualité avec ses amis, ses proches, ses partenaires sur les réseaux sociaux sans passer pour une cochonne ou une frigide?
C'est un peu ce que met en scène le film, mais qui correspondait à nos vies, je pense. On montre un espace assez particulier qui est un entre-soi féminin, qui est l'espace des soirées pyjama, mais aussi des conversations entre amis. Et pour nous, c'était un peu un des seuls endroits où on arrive à parler un petit peu de sexe, même si au départ, c'est quand même, ça reste compliqué. Ça peut être aussi entre sœurs, mais c'est fréquemment un entre-soi féminin et souvent de femmes à peu près du même âge qui vivent, qui traversent un peu les mêmes questionnements et qui ont les mêmes difficultés. C'est l'espace que nous, on a réussi à se ménager pour ça, mais rien n'y prédispose puisque ce qui rend l'expression difficile, c'est tout simplement déjà au départ le fait que ces mots ne sont pas banals. Il faudrait que tous les mots du sexe soient banalisés. Or, ils ne sont pas parce qu'on ne les entend pas à l'école, parce qu'on n'en parle pas dans la famille, parce qu'on ne les entend pas. Donc, ça leur donne un poids énorme.
Ce manque d'expression de la sexualité des jeunes filles, là aussi, en écoutant les personnes qui sont interviewées, j'avais l'impression, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais que ça mène à la perpétuation de soit de certains clichés, soit d'injonctions, l'injonction à l'épilation par exemple, ou le cliché, les grosses, elles acceptent toutes les pratiques parce qu'elles sont grosses, ou ces lacunes dans l'expression, ça amène à la méconnaissance de son propre corps. Par exemple, le clitoris, ça fait 10 cm. Qu'est-ce que vous en pensez de cette absence de transmission, en fait?
Nommer quelque chose, c'est le faire exister. Et dans le cas du clitoris et du plaisir et des sensations, ça semble très évident quand même, il me semble, pour beaucoup de personnes. C'est le faire exister dans l'esprit comme dans le corps et dans la pensée comme dans la sensation. C'est-à-dire que mettre des mots sur les choses, ça peut permettre aussi de les sentir réellement. Donc, à l'inverse, ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, c'est que comme on n'a pas les mots pour parler ni de plaisir, ni de désir, ni d'envie, ni de certaines sensations, finalement, on ne les sent pas et on ne sait pas ce que c'est.
Et pourquoi on n'a pas les mots?
Encore une fois, il me semble que ces mots n'existent pas dans la transmission des parents aux enfants ou peu, où ils ont l'air un peu interdits, ils ont l'air un peu honteux, ils ont l'air un peu sales. Ils existent très très peu à l'école. Ils n'existent que dans des cadres très précis, peut-être dans le porno, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses verbalisées dans la pornographie non plus. Donc, il y a un espèce d'espace inexistant dans lequel ces mots n'ont pas de place. Et quand on n'a pas de mots, on se réfère à quelque chose qu'on appelle très faussement l'instinct. Mais l'instinct, c'est juste la norme à l'état pur. C'est-à-dire que si on ne peut pas discuter avec quelqu'un de ce qu'on va faire, on va simplement se laisser entraîner dans des espèces d'habitudes ou d'idées reçues qui sont que des reproductions de normes sociales. Si on n'en a pas parlé, on va essayer d'imiter peut-être ce qu'on voit ou ce dont on a très vaguement entendu parler, mais du coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout personnalisé. C'est ça qui reconduit les injonctions aussi. Le fait de pouvoir mettre des mots personnels sur les choses, ça permet aussi d'exprimer sa différence par rapport à la norme. Ah, j'ai vu que ça, ou alors on me parle de si, si, ça, mais en fait, moi, j'ai l'impression que ce qui me fait de l'effet, ce serait pas, qui semble complètement central. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, la pénétration vaginale. Je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai l'impression que c'est pas ce qui me donne le plus d'effet. Pour ça, il faut pouvoir parler.
Est-ce que le manque d'éducation à parler de ça, ça bloque l'accès au plaisir?
C'est pas mal ce qu'on pense, ouais, bien sûr. En espérant que tout accès au plaisir ne soit pas bloqué, parce qu'il y a des résistances, heureusement, et le corps résiste aussi tout seul, mais ça limite beaucoup de choses. C'est très limitant, le fait de toute façon, contrôler le savoir, je pense à peu près à toutes les époques, le fait de contrôler le savoir auquel les personnes ont accès est une manière aussi de contrôler leur corps, de contrôler leur liberté, ce à quoi elles ont accès de façon beaucoup plus générale.
Et pourtant, l'évolution des tabous ont quand même beaucoup évolué. Il y a des enquêtes régulières sur la sexualité des femmes. Elles ont de moins en moins, en tout cas dans le déclaratif, moins de difficultés à parler plaisir, moins de difficultés à parler masturbation, moins de difficultés à essayer, alors sinon d'avoir une égalité de désir, mais d'avoir aussi des satisfactions.
Ouais. Ben, y a toujours ce double mouvement hein, de plus en plus de femmes parlent, mais d'une part, ça reste une minorité. Et d'autre part, prenons l'injonction à l'épilation. Elle était quand même absente dans les années 60. Et c'est devenu quand même une norme assez récente et elle s'est imposée de manière très majoritaire. Donc, c'est assez évident qu'il manque un contre-discours. Puisque par ailleurs, cette espèce de discours ambiant qui ne passe pas vraiment par les mots, parce que je ne suis pas sûre que ça passe par des « il faut s'épiler », mais c'est des images, c'est... On remarque que cette idée-là, elle passe. Donc, il y a à la fois le mouvement de la libération sexuelle qui continue son cours, et en même temps, une espèce de retour des injonctions qui sont toujours là. Donc voilà, il faut aussi que les choses changent à un niveau... à une échelle enfin beaucoup plus politique et bien plus large. Et à partir du moment où il manque des femmes à tous les postes de direction et dans toutes les représentations politiques, forcément, l'impact jusque dans la vie sexuelle, à mon avis, n'est pas suffisant ou n'a pas encore l'échelle qu'on aimerait, quoi.
D'où ce documentaire sur le clitoris et avec au début et à la fin du documentaire de jeunes filles qui graffent au pochoir des clitoris sur les murs. Alors, je ne sais pas si c'est Bruxelles, mais...
Oui, il y a Bruxelles et Paris, mais effectivement, l'idée est de rendre ce savoir accessible dans la rue, qui est quand même un espace, l'espace public, où a priori, il n'y aurait pas de discrimination sur qui a accès à ce type d'informations. Ben, on essaye de les rendre les plus immédiates possibles. Et puis, c'est frappant aussi, puisque la forme du clitoris, on a de la chance, c'est une forme qu'on retient bien, une silhouette qui est assez frappante et qui donc fonctionne bien visuellement aussi.
Qu'est-ce qu'il faut souhaiter alors avec ce documentaire pour que la transmission se fasse?
Ce qu'on aimerait nous, c'est qu'à notre échelle, à nos âges, chaque personne, chaque femme individuellement essaye de s'emparer du sujet et de voir ce qui est en son pouvoir de faire déjà pour elle-même à son échelle. Ce que permet de faire le film, c'est qu'il lance des conversations. Et ce qu'on souhaite, c'est une vraie révolution, bien sûr. Alors, ça passe par là et en même temps par des mouvements de fond à l'échelle nationale et internationale, des choses politiques. On pense que voilà, les deux vont vraiment vont ensemble, mais que c'est positif de pouvoir se dire que chaque femme a un pouvoir vraiment d'auto-émancipation. Bien sûr, parfois dans des conditions très compliquées, mais on peut redistribuer ce savoir entre nous sans attendre que ce soit transmis par des aînés, sans attendre que ce soit transmis par l'institution, par la science. On peut aussi faire confiance à notre propre expérience. Dans le domaine de la sexualité, en tout cas, ça semble... On a une vraie confiance là-dedans.
Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié ?
Je pense qu'il y a quelque chose qui gagnerait à être revalorisé beaucoup aujourd'hui, c'est de rappeler et puis de reconstruire une érotisation de cette parole-là, justement, de la communication pendant le sexe, le fait de parler pendant qu'on fait l'amour ou après... Ça me semble précieux aussi parce que il n'y a rien de plus efficace et beau et même essentiel que d'être capable de verbaliser en fait ses désirs, de les échanger de cette manière-là. Et ça fait partie du travail, je pense, vers une sexualité quand même plus épanouissante, plus égalitaire. C'est une bonne piste.
Vous parlez de la communication lors de la pratique sexuelle. Est-ce que dévoiler qu'on est un acteur, une actrice active et pensante de son propre désir, ça passe aussi hors de ces moments où on est dans la pratique et qu'il faut en parler plus largement aussi quand on n'est pas au lit?
Bon, alors Lisa et moi, c'est sûr qu'on a l'air de... Maintenant, on a l'air de parler de sexe toute la journée, ce qui n'est pas complètement faux. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, oui, au quotidien et qui semble assez nécessaire et on prend l'habitude quand même assez rapidement.
Est-ce qu'on vous a taxé alors de salope ou de cochonne ou autre ?
Ah, pas vraiment en face à face en tout cas. Peut-être dans notre dos, ce qui pose pas trop de problèmes. Mais
on boucle la boucle du début de cet entretien en disant que ça arrive que l'expression de la sexualité, l'expression du désir féminin fait que les femmes sont insultées.
Oui, c'est sûr que pour essayer de se prémunir de ça, une des solutions, c'est de chercher au moins des espaces safe, des milieux choisis, des personnes choisies avec qui il est possible de le faire.
Des endroits safe, donc peut-être qu'entre femmes. Mais est-ce que c'est pas le sel de la vie, c'est pas la confrontation aussi? C'est là où on apporte une vraie parole et quand il y a un échange avec des personnes qui sont pas forcément du même avis.
Alors, il y a plein de types de confrontations après dans ce genre de dialogue. Nous, ce qu'on a vécu, c'est simplement parler avec des gens qui nous ont dit très simplement qu'elles avaient des désirs qui étaient très, très, très différents, voire opposés aux nôtres. Et c'est la chose qui nous a fait le mieux nous rendre compte de la diversité sexuelle. Parce que même nous, on ne peut pas s'empêcher de plaquer ses propres désirs sur les autres et de se dire « tout le monde fonctionne de la même façon, tout le monde respire de la même façon, tout le monde se brûle de la même façon, alors tout le monde a des orgasmes similaires ». C'est très difficile d'échapper complètement à cette idée-là. En fait, quand on parle aux gens, on se rend compte très rapidement que c'est complètement faux. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs. La seule façon de savoir comment faire du bon sexe avec quelqu'un, c'est de s'intéresser à et lui demander ce que cette personne apprécie.
Merci à Daphné Leblanc pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, comme ça vous aurez toutes les notifications des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous envoyer des critiques, des commentaires, des idées d'épisodes à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.